Jeunesse en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Aujourd'hui, la mouche qui rêvait d'être une guêpe. Il y a des saisons d'amour. De ces moments intenses où la nature semble pleine de toutes les exubérances. On imagine bien que chacun, noyé d'hormones et de désirs, ferait de son mieux pour séduire et obtenir la plus belle des descendances. Le darwinisme lui-même reste fondé sur cette hypothèse. Chacun chercherait d'abord à diffuser le plus possible de ses propres gènes, à obtenir la progéniture la plus nombreuse. Le cerf bramerait pour diffuser le plus possible de ses gènes. La femelle de mésange choisirait le meilleur géniteur pour sa couvée, et même l'improbable lucane cerf-volant se battrait jusqu'au bout pour multiplier sa progéniture. Toutes les adaptations seraient le résultat évolutif de cette amélioration en marche. Chaque organe du corps permettrait ainsi un progrès dans cette tentative mille fois répétée, se reproduire encore, persister, proliférer, développer une progéniture de plus en plus abondante. Selon les principes de cette évolution darwinienne, chaque comportement optimiserait ainsi la reproduction des espèces, pour toujours mieux propager les gènes et les descendants. Il n'est pas un organe, pas un comportement ou pas un individu qui se lasserait de cette ancienne darwiniste. Chaque espèce doit produire le plus de descendants possible et chaque individu étendu par ce challenge intense obtenir la plus grande descendance possible, transmettre le plus possible de ses gènes. Il est alors curieux de constater que les êtres vivants ne semblent pas tout faire pour propager leur espèce. Il y a ceux des espèces qui déjà réduisent leur progéniture pour lui accorder plus de soins, s'investir pour protéger les descendants et favoriser leur survie. C'est ici le sens de l'étrange paradoxe de Cole, qui révèle que les espèces les plus récentes font moins de petits que les espèces les plus archaïques. Ceux-là font donc moins de bébés, mais leur attachent une plus grande importance, et notamment une plus grande importance à leurs soins. Il en est ainsi des éléphants qui ne commencent leurs amours que vers 20 ans pour les dames et 40 ans pour les grands mâles. Encore que ces femelles se bornent à avoir 3 ou 4 petits seulement au cours de leur vie. C'est un peu moins que les 12 souriceaux de chaque portée qui surviennent des amours des souris. Et celles-là font 3 à 6 portées par an, pour une progéniture qui peut du coup atteindre 300 individus au cours de leur vie entière. Mais là encore, ces 300 descendants paraissent un nombre bien restreint comparé aux 4 millions d'œufs pondus par la morue dans l'océan. Chaque animal donne cette étrange impression qu'au cours de l'évolution, d'espèce en espèce, chacun a diminué ses descendants pour accorder plus de soins à sa progéniture. Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de Cole, détruit donc la légende. Non, les animaux ne cherchent pas à se reproduire le plus possible, non plus qu'à diffuser le plus grand nombre de leurs gènes. Les amours n'ont pas pour rôle ce développement incessant de nouveau-nés. Chacune des espèces est au contraire appelée à une bien plus grande modestie qui équilibre sa reproduction avec le monde. Mais cette bizarrerie non darwinienne est encore plus étrange pour les animaux batésiens. Car il est possible que finalement, une plus grande reproduction puisse aussi s'avérer devenir un piège mortel pour l'espèce. C'est ce que nous allons petit à petit comprendre dans cette nouvelle émission de Science en Liberté où les sirfes et les bâtons du diable nous attendent. Aujourd'hui, l'étrange vie des mimétiques batésiens se passe sur Science en Liberté.
We'll be right back.
Fareccio Cariglia, Urns Taverne.
De retour sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté.
Nous sommes au mois de décembre et la prise d'été souffle timidement sur cette plage de Destero dans le sud-est du Brésil. En cette année 1852, Johannes Fritz Müller vient juste d'arriver en Amérique du Sud. Et le biologiste allemand s'intéresse à de drôles de petits crustacés qui se dissimulent dans le sable de la plage. Le monde des tanédacées est un empire minuscule. Leurs larves planctoniques se laissent emporter par le flux des courants, et on ignore bien des choses sur la transformation des larves en ces petits amphipodes. Et puis ces puces de mer au corps aplati sont si nombreuses sur la plage. Un même sable, mais pourtant, des puces différentes. Les puces de mer paraissent bien distinctes les unes des autres. Fritz Müller se penche sur le sable sans s'occuper des vagues qui déferlent au loin. Avec sa loupe d'observation, Fritz distingue 4 espèces de puces, 4 espèces de mellita. Oui, 4 espèces sur un même sol, dans un même habitat. Car bizarrement, leurs organes mâles paraissent totalement inconciliables. Mais à quoi peuvent-ils être adaptés? Comment se partagent-ils un même espace si homogène, tout en étant si différents? Comment des espèces peuvent-elles diverger au même endroit? Fritz n'aura pas la réponse à cette spéciation si étonnante. Mais il devine que si tous ces petits amphipodes se ressemblent, leurs organes sexuels sont bien trop différents pour constituer une même espèce. Leur similitude annonce probablement qu'ils partagent un ancêtre commun. Mais comment se sont-ils différenciés à partir d'un même animal souche? Chaque mâle présente 2 formes bien différentes. Tandis que l'un possède des pinces puissantes qui lui permettent de tenir la femelle pendant la copulation. L'autre variant, au contraire, dispose de nombreux organes olfactifs odorants qui séduisent l'autre sexe. Bref, quand l'un des mâles sait comment attirer la femelle, il ne peut pas les retenir. L'autre les trouve difficilement, mais possède le moyen de les retenir grâce à ses pinces d'une grande efficacité. Il en résulte que ces mâles finissent par avoir à peu près le même nombre de descendants. La variété n'est pas contradictoire avec la reproduction sur cette plage, en dépit d'un milieu homogène, de niches si semblables, mais on n'utilise pas encore ce mot à l'époque. En tous les cas, ce qui intrigue le plus Müller, c'est la manière dont cette différence s'est produite. Car même la larve des 2 espèces est très semblable, comment les distinguer ? Le chercheur pense que le secret est peut-être là, dans cette croissance, qui sait. Fritz va donc profiter de ce séjour pour collecter ces animaux marins et étudier les phases du développement larveur. Oh, ça sera laborieux, mais il sait être patient. Mais qui donc est Fritz Müller? Johannes Fritz Müller est né en 1821 en Allemagne, dans une famille rigoriste, et il a effectué un apprentissage de pharmacie. Mais à 20 ans, il préfère aller à Berlin pour étudier les mathématiques, car c'est dans cette grande ville qu'il va rencontrer la misère des salariés et en même temps les idées progressistes de lutte contre le capitalisme. Il milite un peu, beaucoup, découvre le socialisme et les idées libertaires. Passionné d'histoire naturelle, il obtient aussi un diplôme de biologie en 1845. La nature le fascine. Les êtres vivants qui semblent tous déjouer les mythes religieux, sont extraordinaires. La biologie, pour Fritz, c'est avant tout la vie des libellules et des papillons. Mais, bien que fils de pasteur, le jeune Allemand reste un bouillant propagandiste des idées socialistes de l'époque, mêlant des théories libertaires de Proudhon aux dogmes socialistes les plus libéraux. En tous les cas, il ne conçoit pas que la religion puisse être conciliable avec l'histoire de la nature et avec la science. Et la vie des animaux s'avère à ses yeux beaucoup trop diversifiée pour entrer dans une seule Bible. Au désespoir de son père, il adjure le christianisme, s'affirme athée et s'intéresse de plus en plus aux luttes sociales, aux théories de la Révolution. Il rencontre beaucoup de jeunes femmes et peu à peu s'affiche pour l'amour libre. « Il faut faire disparaître le surnaturel chrétien, s'aimer sans mariage et comprendre l'histoire naturelle, dit-il. » Et ses parents n'apprécient guère qu'il refuse l'allégeance à l'Église, d'autant que le pays reste gouverné d'une main de fer. Il en a que faire. Il trouve un poste d'enseignant, mais la loi teutonne l'oblige à se soumettre à la religion. Un professeur doit être un religieux. Contre son gré, après quelques mois d'enseignement un peu brouillon, il est obligé de quitter son poste. Mais il a suffisamment fait d'études pour s'installer alors comme médecin. Il faut reconnaître que la médecine de l'époque reste encore bien rudimentaire, et dans les bas quartiers sans hygiène, les blessures et les maladies vont ronger les populations. Il essaye alors de soigner toutes les misères du monde. La Prusse, l'Allemagne, la Révolution. Il s'enthousiasme pour la crise de 1848. L'Allemagne peut changer, et pourtant non. La force révolutionnaire a été abattue, le socialisme est brisé. L'Empire impose la pesanteur de son ordre le plus rigoriste. C'en est fini de la liberté de penser comme de la liberté des amours. Et pour garder un métier, la plupart de ces socialistes libertaires vont jurer allégeance à l'Église ou à l'Empire. Pas Fritz. Non, pas Fritz. Vivant dans le péché avec une fille d'ouvrier, Caroline, Fritz doit renoncer à son poste universitaire en zoologie et en médecine, poste auquel il aspirait tant. Mais il n'est pas question de rejeter ses convictions. Il décide donc de partir. C'est un rude voyage, avec peu d'argent, peu de certitude d'arriver à bon port. Le bateau va franchir l'océan, car Fritz part au Brésil. Il va rejoindre là-bas la petite colonie allemande installée à Blumenau, dans le sud-est du Brésil. Le couple y arrive en 1852, sans aucune intention de ne jamais revenir en Prusse. Ils arrivent avec leur jeune enfant et aménagent une petite maison. Mais Fritz se déchante vite. Les colons ne sont guère compatissants, ni très tolérants dans cette Amérique nouvelle et bien rude. Et ils se voient obligés de se marier pour avoir le droit de s'installer. Il faut défricher la forêt, construire sa demeure, se défendre contre les Indiens et assurer sa subsistance en développant une petite ferme. Comme il est la seule personne disposant d'une expérience médicale, c'est lui qui devra soigner ses voisins lorsqu'ils seront blessés par des flèches indiennes. La vie de ces pionniers est très difficile, mais il assure sa descendance. Il a sans doute eu 6 filles. Et puis, jamais une destination ne fut prisée par les scientifiques que le Brésil. Mais le Brésil a souvent été la terre d'accueil de nombreux naturalistes et à l'époque, évidemment, notre ami Müller préférait encore se promener sur la plage. Thank you.
Les travaux de la ferme l'intéressaient assez peu dans cette colonie particulière. Et évidemment, pour les migrants de l'époque, le travail au champ était pourtant très important et considérable.
Alors Fritz continue à promener sa curiosité scientifique. Et 4 ans après être arrivé, il quitte le métier de fermier pour intégrer un poste de mathématicien à la haute école de Desterau sur la côte. Ici, la mer rencontre une terre nouvelle et Fritz abandonne ses bottes pour marcher pieds nus dans la forêt. Et puis il reste fasciné par la plage et par la phylogénie de nos petits crustacés puces de mer. D'abord, il y a ces organes bizarres, mais aussi les relations mutualistes qu'ils exercent entre eux. Il s'intéresse ainsi à l'association originale de fourmis avec un arbre tropical, le Cecropia. Les insectes protègent l'arbre des plantes grimpantes et des parasites, alors qu'en retour, les fourmis trouvent là leur refuge et les différents moyens de se nourrir. Voilà donc que l'association des espèces pourrait trouver un rôle dans l'histoire évolutive. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour comprendre le sens biologique et évolutif de tout cela. C'est alors qu'il va découvrir le livre de Darwin. L'origine des espèces va enthousiasmer Müller. Il avait déjà supposé que ces petits amphipodes provenaient tous d'un même ancêtre. Mais désormais, voilà, il a les moyens d'affirmer que les phases successives de développement larvaire de ces crevettes va pouvoir récapituler l'évolution qui, en des millions d'années, a développé ces crustacés à partir d'une forme commune. Un ancêtre commun et les espèces évolueraient. Bientôt, cette loi biogénétique fondamentale deviendra très fameuse et sera exploitée à l'excès par un certain Allemand, Ernst Haeckel, qui ira jusqu'à tricher pour démontrer que l'ontogénèse des espèces récapitule l'évolution. Mais c'est faux. L'ontogénèse n'a rien à voir avec l'évolution. Mais en attendant, Müller développe des arbres évolutifs et additionne des milliers d'exemples en faveur de la théorie de l'évolution, jusqu'à écrire un livre enthousiaste pour Darwin, où il regroupe toutes ses observations pour étayer cette fameuse loi biogénique fondamentale. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il fera sa découverte majeure, celle que nous avons tous retenue sous le nom de mimétisme müllérien.
Treasure!
Les métalleux d'Alerstrom parcouraient les mers over the sea. Fritz Müller s'est donc expatrié à Destero. Il travaille, il enseigne, motivé par ses idées libertaires et par la découverte de la faune dans cette nature sauvage. Dans le même temps, l'histoire le poursuit et comme il a dû fermer son cabinet à Berlin, il est bientôt obligé de quitter l'école de Destero quand les jésuites en prennent le contrôle. Fritz est chassé de l'école comme un rebelle, encore comme un rebelle. Mais il écrit encore. Et désormais qu'il a découvert le texte de Darwin, il insiste pour diffuser que l'évolution existe. Il a fini de rédiger son livre intitulé Pour Darwin, dans lequel il va accumuler les observations sur les animaux pour démontrer combien l'évolution est la seule explication de leur diversité. Il ignore gentiment Lamarck qui avait posé les bases de la théorie évolutive parce qu'il prend Darwin pour le grand continuateur de cette évolution lamarckienne, plus attaché encore à ce matérialisme affiché. Pour Fritz, la recherche scientifique va enfin permettre l'essor d'un monde nouveau, un socialisme scientifique. Mais pour les petits méditats de la plage, il ne trouvera jamais la réponse à cette bifurcation des espèces dérivant d'un même ancêtre probable et qui se différencie pourtant dans un même habitat. Ce principe non darwinien que l'on nomme encore de nos jours spéciation Saint-Patrick. Mais revenons. Il quitte donc l'école et l'enseignement. Mais sa présence n'est plus souhaitée non plus dans la petite ville et il ne reçoit pas vraiment d'appui local. Alors Müller va prendre ses observations en allant vivre directement dans la forêt. Sans hésiter, il s'équipe d'un canote, construit une hutte et fouille l'inextricable végétation de l'immense Amazonie. Que la forêt est grande et combien de secrets va-t-elle lui révéler ? Fritz possède une âme d'aventurier, d'explorateur. Il obtient un vague poste de naturaliste itinérant. Il devient attaché de recherche au muséum de Rio. Rio est si éloigné qu'il devra remettre ses rapports, expliquer ce qu'il étudie, ce qu'il explore. Il va donc écrire tout cela. Dans la forêt, ce sont maintenant ses anciens amours, les papillons, qui vont à nouveau fasciner Fritz. Et c'est cette découverte qui le rendra célèbre, beaucoup plus que sa compilation originale ou que son livre sur Darwin. Car la forêt regorge d'espèces qui se dissimulent. Il faut dire que le mimétisme est une stratégie adaptative d'imitation étonnante. Une adaptation étrange, mais qui entre bien apparemment dans le cadre de la lutte pour la vie. Le mimétisme permet par exemple à une espèce d'échapper à d'éventuels prédateurs en se déguisant en autre chose. En effet, si on ne peut pas fuir, plusieurs solutions s'offrent alors pour éviter le prédateur. La première, se confondre avec son environnement, en se déguisant en une brindille ou en une feuille. Deuxièmement, adopter les teintes du milieu pour se confondre. Troisièmement, tenter d'effrayer les prédateurs avec de faux yeux menaçants, par exemple. Quatrièmement, montrer qu'on est vénéneux en signalant son goût répugnant par une couleur appropriée. Voyons. Le premier des stratagèmes est simple. Il faut imiter une feuille, se faire passer pour une écorce ou ressembler à du lichen, à des herbes folles. Mais la transformation organique qu'elle suppose est compliquée à concevoir. Il faut imaginer une longue évolution à partir d'organes qui ne sont pas originellement conçus pour cette transformation. De nos jours encore, cette question évolutive se pose. Comment copier son environnement dans son corps ? Il existe déjà un comportement réflexe de certains animaux qui consiste aussi à simuler la mort. Et l'entomologiste Fabre avait déjà remarqué que ce comportement dissuadait les prédateurs en imitant un cadavre beaucoup moins attrayant comme proie. On appelle cela la thanatosis. La réponse peut être trouvée dans cet échappatoire à la prédation selon que ça ne réussit ou que ça ne réussit pas. Nul doute que le mimétisme est le résultat des adaptations qui entraînent une imitation de la nature. Les espèces disposent de camouflage pour échapper aux prédateurs. On parle alors de mimétisme cryptique en se fondant dans l'environnement. Le camouflage consiste à imiter des objets inanimés de l'environnement comme une feuille, comme une brindille. Ainsi, le phasme, ou bâton du diable, ressemble tellement à une brindille sèche que les prédateurs ne le distinguent plus. Le dragon des mers est lui un hippocampe dont les contours sont tellement fractionnés qu'il peut se dissimuler dans les algues et dans les coraux. La chenille géomètre est comme une petite branche noueuse. Le bucéphale ressemble davantage à une petite branche cassée sur les feuillus. Quant à la chenille de phalène émeraude, elle est semblable aux ajoncs où elle passe l'hiver avant de concourir à la métamorphose. Sans compter que de nombreux papillons, comme les noctuelles, ont les ailes de la même couleur que l'écorce des arbres sur lesquels elles se posent dans la journée. Camouflées dans l'écorce, elles sont quasiment indétectables. Ainsi, on peut devenir invisible aux yeux du prédateur. Et au cours des millénaires, n'ont survécu que ceux qui avaient obtenu par hasard cette capacité à disparaître du décor en utilisant des organes au départ faits pour autre chose. La diroplatis est une menthe qui a pris la forme d'une feuille morte et devient invisible sur le sol de la forêt. La phyllie aussi se déguise en feuille et elle est passée maîtresse dans l'art de l'imitation des feuilles. Car ce phasme reste immobile et elle est alors pratiquement indiscernable. Quitte à ressembler à une feuille, la larve de la phyllie est d'abord d'un brun rougeâtre, comme la litière des feuilles qui recouvre le sol forestier. Mais ensuite, elle élabore une teinte verte au début de sa vie. Et en arborant ses coloris, de moisissures, de taches variées, elle sait peu à peu imiter la feuille jusque dans ses imperfections les plus subtiles. L'homochromie est le mimétisme des couleurs et l'homotypie le mimétisme des formes. Mais en fait, la frontière est quand même un peu floue entre ces deux stratagèmes cryptiques, car les solutions sont souvent étroitement liées l'une à l'autre. Parfois, à défaut de présenter une physionomie mimétique, les espèces exploitent ce qu'elles trouvent, comme des petits cailloux, des brins de feuilles pour se déguiser. Le principe est simple, on se recouvre de matériaux variés pour camoufler sa présence dans son environnement. Par exemple, les larves de trichoptères vivent dans des étuis fabriqués avec leur salive et elles ajoutent des petits cailloux, du sable, pour se fondre dans l'environnement. Les crabes oxyrhynques, que l'on nomme araignées de mer, travestissent leur carapace avec des morceaux d'algues, des cailloux, des fragments de coquilles. Et si on les débarrasse expérimentalement de cette parure, ils recommencent aussitôt à assembler des morceaux pour se recouvrir et toujours se soustraire à la vue des prédateurs. Mais Fritz va comprendre que le mimétisme peut refléter beaucoup plus qu'une aptitude au camouflage. Car les papillons arborent d'étranges couleurs. Le mimétisme peut aussi consister à tirer un avantage en se déguisant. Ainsi, des espèces vont évoluer en ayant des attributs qui les font ressembler à des espèces dangereuses. Ils exhibent alors des couleurs pour effrayer le prédateur, comme les ocelles sur les ailes des papillons qui ressemblent aux yeux des hiboux. En exposant soudainement les ocelles colorées, le papillon fait alors hésiter le prédateur qui craint d'avoir en face de lui un ennemi. Le petit paon de nuit possède des ocelles très dissuasifs comme cela sur ses ailes. Et ces ocelles ne sont dévoilées qu'au tout dernier moment, quand l'agresseur s'approche, et le papillon va pouvoir le tromper. Ou encore la chenille du grand sphinx de la vigne ressemble à une tête de serpent, ce qui évidemment déroute les prédateurs. Ils essayent de se pencher sur un mets délicieux et tombent sur la tête d'un serpent. On parle alors de leur dissuasif, car ce bluff est très efficace. Fritz Müller va aussi remarquer que de nombreux papillons disposent de glandes particulières qui les rendent vénéneux pour leurs prédateurs. L'oiseau, vite dégoûté par le mauvais goût du papillon, se détourne de cette proie. Voilà un excellent moyen pour ne pas figurer dans le régime alimentaire des oiseaux. Mais cela reste bien insuffisant, car l'animal peut se retrouver au menu si le prédateur ignore que la proie est immangeable. Il faut donc comprendre pourquoi les prédateurs savent ignorer ces papillons-là, comment ont-ils appris, comment savent-ils qu'ils sont empoisonnés. Armé de sa loupe et de sa patience, Fritz Müller fouille la forêt équatoriale à la recherche des papillons. Il entreprend de catégoriser chaque espèce, de la décrire, et remarque que les papillons toxiques exhibent également des couleurs extravagantes, bien plus colorées que tous les autres papillons. Ces formes et ces coloris sont tellement visibles dans les sous-bois que les oiseaux les distinguent bien à travers le sous-bois, et beaucoup mieux que leur propre proie. C'est donc, pense Fritz, que ces papillons toxiques ont un intérêt à être ainsi exubérants. Mais pourquoi ? Oh, Fritz ne s'étonne pas longtemps. Il observe. En fait, le prédateur se méfie si des livrées sont aussi chatoyantes. Pourquoi la proie exhiberait-elle ainsi au risque de se faire repérer? Si une proie potentielle ne se dissimule pas, c'est probablement que quelque chose de bizarre lui est associé. Voilà ce que se dit l'oiseau prédateur, et ainsi le coloriage des ailes indique que ces papillons ne sont pas des proies comestibles. Il s'agit donc bien d'une couleur d'avertissement. Voilà pourquoi elle est si criante. Des couleurs vives ont été retenues par l'évolution parce qu'elles sont très sensibles à la vue des prédateurs. Ce signal, appelé signal aposématique, constitue un moyen de défense très efficace. Il avertit les prédateurs éventuels que la proie est vénéneuse. Fritz découvre ainsi que cette couleur aposématique va laisser un mauvais souvenir aux prédateurs pour qu'ils associent l'ornement de la livrée avec une mauvaise expérience. La couleur d'avertissement est une stratégie qui est ainsi à l'avantage à la fois du prédateur, qui apprend vite, et de la proie, qui peut se défendre. La guêpe, par exemple, est jaune et noire, ce qui la distingue de très loin comme un animal toxique et dangereux. Du coup, pas besoin de se cacher ou de se soustraire à la vue, on le comprend. Mais voilà. Il faut bien que les prédateurs apprennent que l'avertissement coloré est associé à la toxicité de l'animal. Et pour que le prédateur apprenne, il faut que cette toxicité ne soit pas immédiatement mortelle. Sinon, l'apprentissage serait impossible. L'oiseau prédateur mourrait immédiatement. Le problème, c'est que les prédateurs vont mettre un certain temps à se remémorer ces expériences dégoûtantes. La zygène est un papillon qui a beau être coloré de rouge et de noir, ça ne suffit pas. Les oiseaux, jeunes et naïfs, goûtent quelques-uns de ces papillons. Et bien sûr, ils vont les recracher très vite, apprenant à éviter l'espèce à cause de ce goût immangeable. De plus, les oiseaux adultes et expérimentés vont aussi attraper ces papillons toxiques, de temps en temps. Mais en faisant très attention, comme pour vérifier qu'ils sont toujours et toujours encore vénéneux. Donc, en arborant sa couleur, le papillon toxique sacrifie quelques individus pour éduquer la totalité des prédateurs. Mais voilà, chacun de ces papillons dispose encore d'une autre arme. Il a à peine quitté sa Prusse natale depuis moins de 5 ans, et déjà Fritz Müller commence à pénétrer le problème.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin um was ein zu kaufen, um was ein zu kaufen und sich auch zu laufen durch die Straßen latschen um sich auch zu quatschen sprich die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste Freundin
oh meine beste Freundin
oh meine schöne Freundin oh meine treue Freundin oh meine süße Freundin ist die beste Freundin mit der besten Freundin sprich die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste
Was sagt denn da die beste Freundin? Sag doch mal was zu mir, was dir so gerade einfällt.
Kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte. Wir vertragen uns beide so gut.
Ja, wir vertragen uns so furchtbar gut.
Dass wir uns beide gut zusammen vertragen.
Es ist kaum noch abzuhalten, wie gut wir uns beide vertragen.
Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut.
Mit meinem süßen kleinen Mann.
Ja, mit deinem süßen kleinen Mann.
Ja, mein Mann. Wie dein Mann. So ein Mann. Wie der Mann von der Frau, früher gab's den Hausfreund, doch er schwand dahin, heute schreit der Hausfreund, wie die Hausfreundin.
Dein kleiner Mann ist aber auch gerne.
So?
Ja.
Warum?
Ich finde.
Wieso?
Warum?
Wieso finden? Ach, da ist aber ein Satz. Das passt mir aber nicht.
Nanu.
Nanu?
Du hast mich mit ihr betrogen.
Weil du mich mit ihr betrogen
Und du hast mich mit ihr betrogen.
Weil du mich mit ihm betrügst.
Was sind das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber vertragen?
Ja, wir wollen uns lieber vertragen.
Die dumme, dumme Liebe.
Wenn die beste Freundin. mit der besten Freundin. Um was ein zu kaufen, um was ein zu kaufen und um zu laufen. Durch die Straßen latschen, um sie da zu quatschen. Sprich die beste Freundin, du der besten Freundin, meine beste. Meine beste Freundin, oh meine schöne Freundin, oh meine treue Freundin, oh meine süße Freundin, sie ist die beste Freundin, mit der besten Freundin, sprich die beste Freundin, zu der besten Freundin, meine beste Freundin.
L'inimitable voix de Marlène Dietrich.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Après bien des ennuis en Prusse, notre biologiste Fritz Müller est donc parti étudier les insectes de la forêt du Brésil. Sous la loupe du naturaliste, il a découvert que la couleur des papillons leur permet d'échapper aux prédateurs. Il s'agit de ces fameuses couleurs d'avertissement dites aposématiques qui avertissent le prédateur que la proie est toxique et dangereuse. Il en est ainsi du jaune et noir de la guêpe. Du coup, les papillons zygènes sont nonchalants sur les feuilles et peu pressés de s'envoler, puisque quand arrive un oiseau, les prédateurs reconnaissent immédiatement sa nocivité signalée par la coloration rouge et noire du papillon. Mais il y a encore une autre histoire. Car il existe d'importantes différences entre le camouflage et le mimétisme. En effet, le camouflage est une sorte de déguisement organique qui peut évoluer très vite sous l'effet, par exemple, d'un prélèvement répété par un prédateur. Les animaux les plus cryptiques, les mieux camouflés, échapperont aux prédateurs, tandis que ceux qui sont le moins bien pourvus ne pourront pas laisser de descendants. La sélection est donc rapide sous l'effet de la prédation, tant que la relation écologique prédateur-proie dure. Ce type de camouflage répond donc très très bien à l'idée de Darwin d'une survie des meilleurs, d'une survie des plus aptes, des mieux déguisés. Le mimétisme, lui, est bien différent, car ici une espèce évolue pour finir par se confondre avec une autre espèce, copiant un modèle. Fritz prolonge encore ses observations. De marais en bosquet, ses séjours deviennent de plus en plus longs. Il vit sous la tente et se contente d'un mauvais tabac pour éloigner les moustiques. Ceux qui voient l'hirsute professeur d'un autre temps sortir de sa cabane austère, la pipe à la bouche, sont pourtant étonnés de la passion qu'il montre. Dans la forêt, Fritz remarque que deux espèces de papillons toxiques différentes vont présenter des apparences similaires. En fait, ils sont colorés d'une manière si identique qu'ils se ressemblent entre eux. Quel est donc l'avantage d'avoir des couleurs complexes qui apparaissent sur deux espèces distinctes en étant les mêmes couleurs? C'est une question bien difficile, car si l'évolution donne la clé pour les différences, les papillons ont ici joué sur des représentations analogues. Les papillons d'une espèce prennent donc le risque d'être goûtés par un prédateur en étant si voyants. Mais finalement, ce risque est maintenant plus faible, car à se ressembler en arborant les mêmes signaux, les oiseaux vont apprendre que le papillon est toxique. Et ils peuvent bien ignorer que les deux espèces sont différentes puisqu'elles sont toutes les deux pourvues des mêmes signaux d'avertissement qui montrent qu'elles sont nocives. Ainsi, par exemple, Heliconius melpomen et Heliconius erato sont deux papillons qui ont évolué dans le même sens, avoir une couleur identique. Et cela, évidemment, facilite grandement l'éducation du prédateur. Tous les deux sont toxiques et se ressemblent, et il suffit que l'oiseau prédateur en goûte un pour identifier aussi que l'autre espèce de papillon est tout autant vénéneuse. Ainsi, d'autres font de même. Le papillon monarque et le papillon vice-roi sont tous les deux immangeables par les prédateurs. Voilà, Müller a compris à la fois cette extravagance des couleurs et leur similarité chez des espèces distinctes de papillons toxiques. Fritz explique que le fait de posséder une même apparence permet aux deux espèces d'obtenir des avantages communs. Müller va même poser un modèle mathématique sur ce mimétisme, démontrant que les papillons empoisonnés trouvent bien un même bénéfice à se mimer mutuellement, diminuant ainsi le nombre d'individus sacrifiés lors de l'apprentissage de l'oiseau prédateur. Ainsi, Müller va expliquer pour la première fois en 1878 ce phénomène incroyable. Deux espèces vénéneuses différentes vont se ressembler parce que la couleur d'avertissement améliore l'efficacité de leur protection. Ensemble, les prédateurs vont apprendre plus vite à se méfier d'elles. C'est la grande découverte de ce que l'on nomme aujourd'hui le mimétisme mullérien. Les espèces toxiques se miment entre elles, c'est-à-dire que leur forme et leur coloris convergent peu à peu, formant le même signal d'avertissement. Et ce qui est incroyable, c'est que les populations des deux espèces différentes vivant à proximité vont plus se ressembler entre elles qu'avec des populations vivant plus éloignées, même si elles sont de la même espèce. Ainsi, toutes les deux, avec la même couleur, vont entraîner et renforcer la répulsion des prédateurs à une plus grande échelle. Müller va publier des dizaines de travaux sur ce mimétisme müllérien qui connaît un parallèle dans le monde végétal. La convergence évolutive des espèces démontrait ainsi l'importance de cette adaptation. Mais plus encore que ce que pensait Darwin, Fritz Müller avait mis le doigt sur un mécanisme incroyable qui associe les espèces entre elles et démontre l'importance des interactions écologiques dans l'évolution. Et nous allons voir que le mimétisme présente encore d'autres surprises. Le mimétisme müllérien explique donc comment deux espèces toxiques adoptent la même coloration et la même forme. Par exemple, à travers plusieurs variantes, le papillon d'Amazonie, Heliconus numata, ressemble à au moins 7 espèces différentes de papillons du genre Melinae, tous toxiques. Les généticiens se sont alors intéressés à 3 variants de cet Heliconus pour comprendre comment se manifestait une telle ressemblance. Une simple région du chromosome 15 semble être en cause dans le codage de la formation des motifs sur les ailes. Il s'agirait d'un bloc de gènes, d'environ 30 gènes, dont certains sont impliqués dans l'élaboration d'une bande jaune, un autre gène pourrait coder la formation de points noirs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que selon les variants, le sens d'expression des gènes n'est pas le même. Les régions d'ADN se retrouvent en position parfois inversée d'un individu à un autre. À chaque combinaison chromosomique correspond un variant de l'Heliconus ressemblant à une espèce donnée de Melinéa. On peut ainsi en conclure qu'au cours de l'évolution, des épisodes d'inversion des gènes se sont passés sur ces chromosomes. Au cours de la reproduction et de l'histoire des espèces, des segments d'ADN portant que quelques gènes ont été coupés, déplacés, inversés. Ce qui est remarquable, c'est que ces événements contrecarrent toute recombinaison génétique lors de la méiose, c'est-à-dire lors de la formation des cellules sexuelles, les spermatozoïdes et les ovules. L'inversion des segments d'ADN empêche tout nouveau panachage génétique de ces gènes pour construire un bloc cohérent d'une trentaine de gènes. Du coup, ce bloc de 30 gènes est stabilisé dans une combinaison spécifique à chaque variant, et donc le bloc est hérité sans changement. C'est cela que l'on nomme un supergène, puisqu'il est désormais transmis en bloc sans modification de ses parties. Sans cette histoire évolutive et ces inversions chromosomiques, tous les gènes du bloc seraient indépendants et donc subiraient une recombinaison génétique à chaque sexualité, à chaque génération. Ces recombinaisons entraîneraient alors un plus grand nombre de variations et annuleraient le lien avec les fameuses espèces qui sont copiées. Donc plus aucun papillon ne se ressemblerait. Ce mécanisme de supergène avait déjà été supposé chez d'autres espèces pour favoriser ainsi le maintien de la ressemblance dans le camouflage de papillons de nuit ou encore dans la constitution des coquilles d'escargots. Avec le mimétisme, il y a donc une autre évolution, une coévolution entre l'espèce et son modèle. Et cette histoire est loin de se terminer ici.
Merci, ça va m'y tant. Trop mangane, trop ancien. Comme un refrain dépassé, pauvre si. Pauvre si. Estribillo de couleur duende. À travers une blessure, of course, across the skull. Refrain de mille et une couleur duende. Soyons libres de celui qui m'a pas dit. Ni de paix, ni de guise. Ya, 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 ya. We'll be right back.
juste mes mots pour la peur. Il pleure pourtant peine.
Prophétie, prophétie,
exprimer l'oubli pour l'ordonné. À travers une blessure, on cause quoi ce corps. Enfin, bénis-les, douleur donnée. Soyons l'hymne de celui qui n'a pas dit. Non, le désespoir ni le trêve.
Lojo, qui nous interprétait Duende. La question du mimétisme, ou plus généralement des colorations animales, est une de celles qui ont fait couler le plus d'encre et qui ont suscité les discussions les plus passionnées chez les biologistes. Pourtant, désormais, l'effet protecteur de l'homochromie, du mimétisme et des colorations aposématiques a été démontré par d'innombrables expériences plus probantes les unes que les autres. Pendant que Müller travaille, au fond de la forêt amazonienne, sur ces papillons toxiques qui se ressemblent, un autre chercheur est aussi arrivé au Brésil. Henry Walter Bates est un entomologiste britannique. Fils d'une riche famille, Bates est né en 1825 à Leicester, dans une famille de la haute classe moyenne anglaise. Il accompagne l'administration de la fabrique de bonneterie de son père, mais il a une passion, étudier les plantes et collectionner les insectes. Il s'inscrit donc pour suivre les cours d'un jeune professeur à l'université de Leicester. Ce professeur, c'est Alfred Wallace. Bates a à peine 19 ans quand il va publier en 1843 un court article sur les coléoptères dans The Zoologist. Il continue à percevoir l'enseignement d'Alfred Wallace, le célèbre co-découvreur de la théorie de la sélection naturelle avec Darwin. Et voilà, s'est intéressé par les premiers travaux de Bates. Une amitié commence à naître entre les deux hommes, qui partagent les mêmes idées, plutôt de droite, et le même intérêt pour l'étude naturaliste. L'époque est aux grands explorateurs. Et voilà que les deux hommes, Bates et Wallace, décident de monter ensemble une expédition pour explorer l'Amazonie. Attention, Wallace est le co-découvreur de la théorie d'évolution, mais il restera toujours persuadé que les humains sont issus d'une création divine. Le projet d'exploration de l'Amazonie est financé par le British Museum. Et en avril 1848, les deux amis vont quitter ensemble la Grande-Bretagne pour atteindre le Brésil. Leur objectif est de recueillir des insectes et des spécimens pour les vendre aux collectionneurs et aux musées. Mais ils n'ont pas les mêmes habitudes de travailler et Bates est beaucoup plus pressé que Wallace d'obtenir des bénéfices. Aussi, les deux hommes se séparent pour prolonger chacun de son côté les découvertes. Wallace va rencontrer beaucoup de problèmes, et les difficultés du séjour en forêt vont l'épuiser. Au bout de 4 ans, il décide donc de revenir. Mais les obstacles ne sont pas terminés pour Wallace. Un incendie va ravager presque tout ce qu'il avait collecté. Il lui en reste assez pour vendre ses spécimens, et avec son petit magot là, ses fonds propres, et puis une aide complémentaire de ses parents et du British Museum, il va pouvoir mener une vie parfaitement indépendante. Armé de ses notes sur l'Amazonie, Wallace écrit donc nombre d'articles et d'ouvrages qui vont le rendre de plus en plus célèbre, et il va repartir dans une nouvelle expédition en forêt équatoriale. Mais pour lui, il y avait déjà beaucoup trop de naturalistes au Brésil. Mais comme la Malaisie restait assez peu connue, Wallace va s'y installer. Le Muséum de Londres va lui procurer des subsides, car enfin, l'Empire britannique dominant devait tout savoir sur la biodiversité et les ressources insoupçonnées qu'il restait encore à découvrir en Asie. Pendant ce temps, Henri Betts continue d'explorer la forêt d'Amazonie. L'extraordinaire diversité de ce monde le fascine. Il collecte plus de 14 000 spécimens en moins de 11 ans. La plupart des espèces n'étaient même pas connues encore dans les muséums. Aussi, quand il a rédigé son livre, « Un naturaliste sur le fleuve Amazon », eh bien ce fut un succès incroyable de librairie pour la Grande-Bretagne de l'époque. Et c'est alors que Betts va rencontrer les papillons de Müller. Betts contempla ses formes et ses couleurs étranges. Mais, bien qu'au courant de tout ce qui se disait, quelque chose ne fonctionnait pas. Bien sûr, tous ces papillons toxiques possédaient une couleur d'avertissement, cette couleur bien visible et ostentatoire qu'ils exposaient au monde pour se protéger. Des guêpes aussi toxiques arboraient des couleurs selon le même principe. L'oiseau apprenait donc vite à se défier de ces animaux vénéneux et immangeables. L'histoire naturelle comportait donc deux protagonistes. Une première espèce, le papillon ou la guêpe toxique, et une deuxième espèce, l'oiseau prédateur potentiel qui apprenait à les éviter. Jusqu'ici, l'histoire paraissait finalement assez simple et bien expliquée par Müller. Mais non. La vraie histoire comprenait un troisième partenaire. Betts se découvrit qu'une autre espèce participait à ce jeu évolutif à trois. La forêt d'Amazonie n'était pas la seule à dévoiler cela, car même en Grande-Bretagne, une histoire identique faisait se répondre trois espèces dans un même scénario évolutif. Mais voilà, quelle faisait donc la troisième espèce? Qui était-elle? Tout d'abord, Betts remarque que cette troisième espèce est pourvue des couleurs d'avertissement. Mais ce qui était surprenant, c'est que ces couleurs, et même la physionomie de l'espèce, qui semblait identique à la première espèce identifiée. C'est-à-dire que cette troisième espèce exhibait les mêmes coloris, les mêmes formes, ou presque, et plus encore, elle vivait d'une manière semblable à la première espèce toxique. Et pourtant, ces papillons d'aspect similaire n'étaient absolument pas des espèces proches. Pire, ces nouveaux venus dans le scénario évolutif n'étaient même pas toxiques. Ils avaient la fameuse couleur aposématique, avertissant qu'ils étaient vénéneux, mais ne l'étaient pas. Pas la moindre défense vénéneuse, pas la moindre toxicité. Ces espèces étaient vulnérables, mais portaient ces couleurs terribles. Et pire, ces couleurs étaient semblables à des vrais papillons toxiques. Chez le papillon Dardanus, l'évolution avait poussé l'usurpation encore plus loin, en développant plusieurs formes. En effet, le papillon toxique modèle présente plusieurs morphes selon l'aire géographique qu'il fréquente. Alors la troisième espèce présente également autant de morphes qu'il y a de modèles. Il y a autant de modèles à copier, et bien elle les copie si bien que face à un papillon toxique, il y avait donc bien un autre papillon, mais non vénéneux. Betts comprit que quelque chose de bizarre intervenait. Des papillons comestibles arboraient les motifs d'autres espèces toxiques dans une famille des Helioquinidae, et les oiseaux renonçaient naturellement à les manger. Un mimétisme particulier venait d'apparaître, qu'on allait nommer le mimétisme batésien. Il publia en 1862 sa théorie sur le mimétisme dans un article intitulé « The Imitation by a Species of Other Life Forms or Inanimate Objects ». Jusqu'ici, il pensait qu'il ne s'agissait que d'une copie. Mais dans ce jeu évolutif à trois, les choses sont bien différentes et bien étranges. Car en réalité, les stratagèmes de protection des insectes sont très diversifiés. Les mimétismes batésiens et mulériens sont comme les bornes d'un long gradient de possibilités dans lequel il existe toutes sortes de transitions entre ces deux processus de mimétisme. Mais voilà, Betz comprit que le secret de cette troisième espèce résidait dans le mimétisme. Il mimait les couleurs d'un vrai papillon toxique, mais eux ne l'étaient pas. Et Betz n'avait nul besoin d'aller de l'autre côté des mers pour trouver ces espèces d'usurpateurs, puisque ici, en Europe, et oui, en Europe, des mouches imitent des guêpes. Ces mouches qui rêvent d'être des guêpes, eh bien ce sont des sirfs. Des sirfs dont le stratagème est identique, porter la livrée des guêpes, porter la même livrée qu'un hyménoptère toxique alors qu'on n'est qu'un diptère. Bref, il s'agit bien de se faire passer pour ce que l'on n'est pas, car le sirf est la mouche inoffensive qui rêve d'être une guêpe dangereuse. Le sirf se déguise en une guêpe poliste et déjoue les prédateurs tout en s'exposant, tout en se montrant au grand jour. Mais alors, comment l'évolution peut-elle exercer un tel tour de passe-passe ?
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Trabalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, balde, angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso.
C'était le Brésil de Rita Ribeiro. Nous sommes restés sur l'Amazone avec l'entomologiste britannique Henry Walter Betz. Il regardait des papillons d'espèces similaires, bien que n'étant pas d'espèces proches. Il faut bien imaginer l'ambiance de ces aventuriers à l'époque. Conquérant au nom du monde britannique, il n'hésite pas à s'égarer dans les grandes frondaisons de la forêt, en dépit des dangers et des maladies. Le siècle est à l'audace. Si l'audace peut rapporter, nul Britannique n'y verra de problème. Comme le fut Darwin, le naturaliste du XIXe siècle est ainsi toujours muni de ses pièges et de son fusil pour collectionner les spécimens scientifiques. Chacun est aussi accompagné par les guides locaux pour apporter aux indigènes les verroteries et autres éléments d'usage pour exiger le soutien de ces indigènes. La Grande-Bretagne est dominante sur tous les fronts, car pour faire un empire, il faut des militaires, des gouverneurs et même des scientifiques. Ceux-là ne cherchent pas gratuitement à faire des découvertes au nom. Ils savent bien que la biodiversité est aussi une arme économique qui recèle des trésors à négocier dans le futur. Le Muséum de Londres n'est pas simplement une officine du savoir. C'est d'abord, pour eux, à l'époque, un outil de l'Empire britannique. Henry Walter Best explorait les forêts primaires d'Amazonie en 1863 quand il découvrit l'artifice de ce mimétisme anti-prédateur que l'on nomme maintenant le mimétisme batésien, du nom de Bates. L'histoire de ce mimétisme se passe en trois temps. D'une part, une espèce toxique, qui expose une couleur d'avertissement qui dissuade des prédateurs, comme l'avait parfaitement montré Müller. On va l'appeler le modèle. D'autre part, le prédateur, qui apprend à se méfier de cette espèce toxique en évitant de la consommer. Enfin, dans un troisième temps, une autre espèce non toxique. C'est celle-là qui est le mime batésien. Elle montre la même couleur d'avertissement que le modèle. Ainsi, le mime batésien tire avantage de sa simple ressemblance avec le modèle, parce qu'il a la couleur d'avertissement. Le mime batésien raconte donc cette histoire évolutive incroyable. Une espèce inoffensive adopte l'apparence physique, motif, couleur, physionomie, d'une autre espèce nocive, ce qui lui permet d'être évité par les prédateurs qui, eux, ont appris à dédaigner les vraies espèces dangereuses. Et cette histoire se répète avec des dizaines d'espèces de papillons, de mouches imitant des guêpes et même avec des serpents comme le serpent corail et son faux imitateur, la couleuvre de lait ou couleuvre faux corail, Lampropeltis triangulum. Les deux espèces de serpents sont marquées de bandes alternantes jaunes, rouges et noires, amenant les prédateurs possibles à les éviter, mais l'une des deux est inoffensive. Les usurpateurs font donc recette partout. Mais pourquoi ? Parce que l'espèce inoffensive profite de la répulsion provoquée par une espèce venimeuse modèle à qui elle ressemble. Ce mimétisme batésien est-il comparable à une relation de parasitisme ? Un peu. Car l'espèce inoffensive profite d'une protection contre les prédateurs sans avoir à dépenser trop d'énergie pour produire elle-même des toxines. Ainsi, il existe des mouches qui rêvent de se présenter comme des guêpes. Ces mouches travesties n'auront pas tous les attributs des autres, et notamment pas d'aiguillons venimeux. Mais qu'importe, leur stratégie de se rêver en guêpe va leur donner quelque chose de plus et construire l'une des interactions indirectes les plus subtiles de la nature. Les cirfes sont des petites mouches qui s'habillent comme des guêpes pour dissuader les oiseaux prédateurs. Il a fallu bien des variations inutiles, bien des échecs, pour que l'évolution ne retienne que celle-là qui dispose désormais de ce fameux déguisement. Mais en usurpant la couleur des guêpes, la mouche rebute le prédateur. L'oiseau est simplement la dupe de la ressemblance des cirfes avec une guêpe toxique. Ainsi, le déguisement rêvé est l'aboutissement d'une série évolutive d'interactions entre modèles, prédateurs et mimes batésiens. Tous les batésiens mimétiques disposent des avantages de la coloration, puisque le prédateur est obligé lui aussi d'apprendre à reconnaître la couleur des espèces toxiques. Et après quelques mauvaises expériences avec des vraies guêpes toxiques, le prédateur va assimiler, le plus souvent, qu'il doit ignorer ses proies colorées, en tout cas colorées de cette manière-là. Voilà, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elles ne sont pas toutes immangeables. Car ça, évidemment, la guêpe ne le lui dit pas. La mouche ne le lui dit pas. Car si l'oiseau prédateur apprend que les batésiens ne sont pas nocifs, pourquoi donc ne les toucherait-il pas ? Car voilà, le mime batésien n'a pas d'autre défense que sa ressemblance. Il ressemble à l'espèce toxique, c'est tout ce qu'il possède. Juste une livrée similaire pour effrayer le prédateur, et c'est bien peu. Pourquoi est-ce bien peu ? Rappelez-vous, la couleur d'avertissement ne suffit pas. Elle ne suffit jamais. Car l'oiseau prédateur doit apprendre à reconnaître les guêpes ou les papillons nocifs. Alors l'oiseau naïf, ou même expérimenté, va goûter la proie. Il va tester ce qu'indique cette couleur. L'oiseau donne un petit coup de bec et recrache évidemment la guêpe ou le papillon vénéneux. Du coup, à force d'avoir été touché par les prédateurs, l'espèce toxique est devenue bien plus résistante au coup de bec. Elle dispose, petit à petit, au cours de l'évolution, d'une vraie cuticule cuirassée. En effet, les individus non résistants sont morts, sans descendance. Tandis que les plus résistants, eh bien, ils ont pu laisser les caractéristiques de cette résistance à toute leur progéniture. Une guêpe ou un papillon toxique peut supporter assez facilement d'être amputé, d'avoir une blessure, car leur cuticule est devenue plus dure avec l'évolution. Cette armure permet aux guêpes et aux papillons de supporter une première agression sans trop de dommages, jusqu'à ce que le prédateur perçoive enfin l'effet de la défense chimique et donc les recrache. Certains d'entre eux peuvent même voir amputer un dixième de leur corps et toujours survivre, ce qu'aucun autre insecte ne pourrait faire. Car ce n'est pas le cas du mime batésien. Mais et pourquoi l'évolution a-t-elle si bien pourvu des animaux dangereux quand elle a oublié le batésien ? Rappelez-vous, le batésien ne possède que sa couleur pour se défendre. Quand il est capturé, l'oiseau peut non seulement le goûter, mais évidemment il peut le dévorer. La cuticule des mimes batésiens ne s'est donc jamais renforcée avec l'évolution, puisqu'ils ne peuvent jamais être relâchés quand ils sont capturés, car le prédateur constate dès qu'il les a capturés qu'ils sont mangeables. Cela peut paraître injuste. D'un côté, il y a des modèles qui sont toxiques et qui en plus possèdent cette cuticule solide et résistante, et de l'autre, il y a les batésiens qui ne possèdent que la couleur et pas la toxicité et pas la résistance. Aucune toxicité ne le préserve ni ne l'autorise qu'on puisse le recracher s'il est pris. Et le batésien ne pourra jamais transmettre ni hériter de l'avantage d'une cuirasse. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Bien des événements inattendus découlent de cette imitation stratégique. Le batésien ne peut pas se suffire de ressembler à la physionomie de son modèle. La couleur n'est pas tout. Il doit adopter les caractéristiques comportementales du modèle pour mieux lui ressembler, pour être au milieu de ceux qui sont vraiment toxiques afin de ne pas être découvert. Le cirfe batésien doit copier le vol lourd du papillon vénéneux ou fréquenter les mêmes habitats. Le batésien n'a pas d'autre liberté que de vivre au milieu de ceux qui l'imitent pour que le prédateur ne décèle pas la supercherie. L'habitat du batésien est donc dicté par les autres, avec qui il doit partager les ressources, les ombres, les lumières. Et les mimes batésiens n'en ont pas encore fini avec l'iniquité de leur évolution. Certes, ils sont protégés par leur subterfuge, mais la survie des cirfes peut, à son tour, altérer leur propre avantage. Car, lorsqu'on survit, on se reproduit. Mais si l'abondance des individus batésiens venait à excéder les vrais individus nocifs dans les populations, alors le prédateur serait incapable de retenir la couleur d'avertissement. Comme pertinente, comment pourrait-il apprendre ? Une fois c'est mangeable, une fois ça ne l'est plus. Comment s'en rappeler ? Alors la sécurité des mimétiques s'effondrerait aussi. Il existe donc un paradoxe. La protection que confère la mystification concourt à augmenter la survie et donc la reproduction du batésien. L'avantage du mimétique est lié à la plus grande contribution reproductive des individus qui possèdent ces couleurs d'avertissement qui seront bien copiées sur le modèle, les plus proches possibles, les plus similaires au modèle. Donc, être batésien va accroître la survie et favoriser l'obtention d'une grande progéniture. La survie du batésien va donc lui donner la possibilité d'une plus grande descendance. Et c'est une extravagance que le batésien ne peut pas se permettre. Car, en effet, à chaque fois que le batésien accroît le nombre de ses descendants, il renforce la proportion de mimétiques dans les populations de guêpes, d'animaux nocifs. Cet accroissement va réduire la portée de l'avertissement. Il va réduire la capacité à l'enseignement. Il ne peut pas se permettre de proliférer le batésien, car l'augmentation des batésiens va diminuer la probabilité que le prédateur découvre, dans toutes ses couleurs portées, une vraie proie vénéneuse. S'il y a plus de 30% de batésiens, l'artifice ne sert plus à rien. Le déguisement est toujours découvert. Il y a trop de batésiens parmi les guêpes ou les papillons nocifs. La proportion de proies colorées qui se révèlent nocives, si elle est trop petite par rapport au copieur, eh bien le prédateur n'a peu de raisons d'en refuser la consommation, car il ne pourra plus apprendre. Il découvrira dans ses recherches de plus en plus de proies consommables. Alors rien ne sert alors de trop se reproduire. Le Batésien ne peut pas se reproduire de trop. Le Batésien ne peut pas chercher à diffuser ses gènes. Il ne peut pas se multiplier, car s'il se multiplie, il en mourrait. Trop nombreux, les Batésiens ne seraient plus protégés par leur subterfuge. Du moins, la prédation redoublant, seule l'hécatombe de tous les Batésiens viendrait restreindre l'immimétique à une abondance plus discrète, à une proportion qui les confonde à nouveau avec leur modèle toxique. Alors oui, nous arrivons à cette contradiction absolue du darwinisme. Chez les Batésiens, le succès de reproduction devient un désavantage. Le succès de reproduction devient un handicap. Et dans la coévolution écologique qui les associe dans la nature, les Batésiens ne peuvent jamais être assez nombreux pour déranger les ressources des modèles comme les vrais guêpes. L'équilibre est nécessaire. Voilà l'inattendue conclusion du déguisement des mouches qui rêvaient d'être des guêpes. L'évolution dépend bien davantage de leur écologie, de leur relation avec les autres, que de l'obtention d'une adaptation organique sélectionnée.
In all the Klassenblumen geht, hört man Sauerstoffkes. Jinglach, Mädlach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes.
Jinglach, Mädlach, Kind und Cage, Hosen, Pumpe, Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenlein. Mach das Sauerstoffke, noch mehr Brüder sich vertreien.
Mach das Sauerstoffke, noch mehr Brüder sich vertreien. Brüder und Schwestern, noch mit dem Kerben die Hände. Noch in Nikolai, Kalender, verbrechen die Wände.
Hello, wir gehen zusammen. Lo mir Nikolai kennen, da grob mit der Mann.
Hey, hey, da neue Polizei, da neue Samen der Schabien. Brasse!
Nächsten hat er geführt, hat Wegele mich. Meint ist er geboren, hat Kapital.
Hey, hey, da neue Polizei.
Hey, hey, Daloy Polizier, une chanson anarchiste russe contre la police qui date de 1911. Au fond de la forêt amazonienne, Fritz Müller et Henri Betz ont traqué la signification évolutive de la ressemblance parfaite. Le mimétisme batésien construit en effet l'ultime supercherie du monde animal. Plutôt que de disparaître aux yeux du prédateur en mimant le milieu, le batésien va prendre la teinte d'un animal toxique, d'un animal venimeux. Il va s'orner de sa coloration d'avertissement. Voilà la crainte qu'exploite le batésien. Le batésien est anodin, il n'est même pas venimeux. Mais il sait mentir. Sa défense réside seulement dans l'imposture. Le mimétique batésien met en œuvre des caractéristiques qui vont tromper la détection du prédateur. On voit ici combien l'évolution dépend des autres. Les Batésiens ne peuvent jamais être nombreux, sinon ils avouent leur propre feinte. L'efficacité de l'artifice dépend strictement de l'abondance de l'espèce imitée. En pullulant, le subterfuge des Batésiens ne sert plus à rien, ils sont forcément découverts. Le néo-darwinisme orthodoxe n'en peut plus, le mimétisme batésien constitue un bénéfice adaptatif qui n'avantage pas le succès reproducteur. Ernst Mayr est confondu. L'évolution ne consiste pas à multiplier le succès reproducteur pour protéger à l'infini ses gènes, non. Le paradoxe de Cole, qui souligne combien les espèces les plus récentes produisent moins de descendants que les espèces les plus archaïques, trouve donc ici un début d'explication. L'enjeu n'est pas de se multiplier, mais de vivre ensemble dans une écologie évolutive où chacun dépend des autres et les autres de chacun. Et il ne faudrait pas croire que les animaux vénéneux disposent d'un meilleur atout. Malgré tous leurs efforts de couleur, de cuirasse et de venin, les animaux toxiques sont condamnés à s'exhiber et même à être blessés par les tentations désordonnées de leurs prédateurs les plus naïfs. La coloration aposématique constitue aussi, par conséquent, un handicap évolutif réel. Rien n'est facile quand il s'agit de vivre ensemble et chacun doit s'accorder aux autres, consentir à vivre ensemble. Voilà. Fritz Müller et Henri Betz ont chacun dévoilé une partie de la complexité de ce qui se joue à côté de nous et que l'on nomme l'évolution biologique. En usurpant les couleurs des autres, le mimétique décourage les prédateurs. Mais la stratégie du mimétisme ne confère jamais une protection parfaite. L'évolution n'est jamais parfaite. Dans ce jeu de subterfuges, la coévolution entre les espèces démontre combien tout est une question d'interaction entre chacune des espèces, montrant bien que l'évolution reste décidément une écologie évolutive.
Auditrice, auditeurs intrépides, vous pouvez toujours nous contacter en téléphonant au studio ou encore par l'email sciencelibre@gmx.fr. Science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona, Monique, à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur La ruelle des morts par Thiéphen.
Avec nos bidons en fer blanc, on descend le chercher le lait. À la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les mûres en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersenne Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Lampe qui nous faisait goûter leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. La ruelle des morts. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels et chrysanthèmes des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas dans la ruelle.